Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
Venu d'un pays froid et de glace, les villes garçons arrivés à Arteco. Gardez touché, ils sont gentils. Vous vous ferez de nouveaux amis. Vous tomberez peut-être à nouveau en amour. Allez, venez nous voir. Arteco Marine Land. Tout le monde aime Marine Land.
C'est déjà là, Marine Land, j'en suis.
Non, mais par contre, la publicité, je l'ai entendue, puis je l'ai chantée en tabarouette, puis j'ai une de mes petites sœurs qui arrêtait pas de la chanter, puis qui me tombait sur les nerfs quand elle l'entendait dans le temps, là.
Mais t'es jamais allé? T'aurais-tu
aimé ça? Jamais été. Ben, à l'époque, oui.
Oui, c'est ça.
Alors, quand j'étais enfant, j'aurais rêvé de ça, puis j'écoutais le film Mon ami Willy, puis je tripais sur les épaulards, puis les phoques, puis tout, là.
Même affaire. Moi, je suis allée à SeaWorld une fois quand j'étais très jeune, puis à cause de Mon ami Willy aussi, je tripais sur les épaulards. Et pendant très longtemps, même quand j'étais enfant, je me disais plus tard, je vais faire comme les entraîneurs à SeaWorld. Moi aussi, je vais élever des épaulards. C'était ça, là. Mon emploi de rêve, ma carrière de rêve, je voulais habiter près de SeaWorld et travailler là-bas. C'était le cas jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vieillisse puis je développe d'autres intérêts. Mais le point tournant là, dans ma vision de ces centres-là qui utilisent essentiellement des animaux pour faire des spectacles, ça a été le documentaire Blackfish, qui est toujours sur Netflix d'ailleurs,
absolument,
si je ne me trompe pas.
Oui.
Si vous voulez voir, ce documentaire-là m'a premièrement traumatisé.
Ça shake, hein?
Oui, a mis en lumière une réalité dont on se doutait, mais mettons que je ne pensais pas que c'était de cette ampleur-là. Et ça a été un documentaire pour moi qui a été un point tournant dans ma vision de ce type de parc-là. Et il y a un documentaire qui a été présenté pour la première fois hier à CBC, dont on a en fait zéro entendu parler au Québec, si je ne me trompe pas.
En fait, on va être les premiers à en parler. J'ai vérifié sur Google. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits par les médias anglophones au Canada. Mais comme c'est un documentaire en anglais, il n'y a personne qui en a parlé jusqu'à maintenant.
Bon, le documentaire s'appelle « The Walrus and the Whistleblower », donc « Le morse et le lanceur d'alerte ». C'est un documentaire, en fait, qui tourne autour de l'histoire de Philippe Demers. C'est un ancien employé de Maryland, c'est pour ça qu'on a fait jouer la publicité, qui est devenu finalement lanceur d'alerte pour dénoncer les maltraitances que subissaient certains animaux à l'intérieur des murs de Maryland. Il en a fait son cheval de bataille pendant des années. Il a été poursuivi même par Maryland pour 1,5 million de dollars parce qu'ils ont voulu le faire taire. Alors, on suit son histoire dans ce film-là et surtout, on en apprend davantage sur comment Maryland traitait ses animaux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la réalisatrice du documentaire qui est Nathalie Bibeau pour nous en parler. Madame Bibeau, bonjour.
Bonjour, merci de votre intérêt.
Ben, ça nous fait plaisir, Madame Bibeau. J'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que dans les médias francophones, on n'en a pas parlé encore, mais j'imagine que ça va venir dans les prochains jours. Madame Bibeau, premièrement.
Oui,
sûrement. J'ai écouté le documentaire ce matin, Madame Bibeau, puis je vais vous dire, ça m'a fait un effet semblable que le documentaire Blackfish avait fait sur moi. C'est-à-dire que je pense que ce sont des documentaires qui sont nécessaires. Pourquoi avoir choisi, premièrement, de porter cette histoire-là, l'histoire de Philippe Demers, à l'écran?
Bien, ça a commencé, en fait, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à observer cette histoire se déployer en ligne. Moi, là, j'ai connu Philippe quand j'étais petite. Donc, moi, je suis une franco-ontarienne qui vient d'une petite ville en Ontario qui s'appelle Welland, qui est juste à côté de Niagara. Et Philippe était un ami de mon frère. Donc, je le connais, ça fait longtemps, mais on n'était pas proches en tant qu'enfant. Moi, j'ai quitté cette petite ville il y a plusieurs années. J'ai habité un peu partout au monde. Éventuellement, je suis venue à Montréal il y a à peu près 5 ans. Et puis, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de son cheminement, il est devenu très, très, très populaire dans les médias pour sa relation avec un morse.
Ouais.
Et donc, au tout début, c'était vraiment juste un petit passe-piste, c'était quelque chose, une petite histoire humaine qui était assez légère. Mais 5 ans plus tard, il est sorti encore dans les médias, mais cette fois-ci comme lanceur d'alerte. Puis ça a vraiment capté mon imagination. J'ai commencé à le suivre de très près. Mais j'avais peur, franchement, là, tu sais, de mêler là-dedans puis faire un documentaire sur un gars qui se fait poursuivre et avec d'autres lanceurs d'alerte qui se fait poursuivre et les médias qui se font poursuivre aussi.
Ben, c'était ça. Donc, c'est là où je m'en allais parce que connaissant l'historique de Maryland en matière de poursuite, vous étiez inquiète, j'imagine, à l'idée d'aller de l'avant avec un projet comme ça qui allait essentiellement un peu dénoncer Maryland, là.
Effectivement. Donc, ça m'a pris plusieurs années de vraiment d'accepter de le faire, mais aussi d'avoir le courage de me lancer là-dedans. Puis c'est, il y a quelques années, je me suis dit, il y avait d'autres réalisateurs qui commençaient à en parler, puis qui disaient, ah, tu sais, on pourrait faire un film sur ça. Puis je me suis dit, non, c'est mon histoire à moi. Je l'apprenne.
Oui.
Je l'ai pitié à CBC, puis voilà.
Puis là, je veux qu'on parle un petit peu de Philippe Demers. Vous l'avez côtoyé pendant un certain temps. Vous le connaissiez même un petit peu plus jeune. Donc, Philippe Demers est un ancien employé de Marineland. Il a travaillé, entre autres, directement avec les animaux, comme avec les épaulards. En fait, ce que je voulais faire quand j'étais jeune, là, lui, il faisait ça. Il entraînait des épaulards. Et surtout avec un morse de qui il s'est beaucoup attaché, qui s'appelait Smoochie. Smoochie est vraiment l'essence du documentaire parce qu'on a l'impression que Philippe Demers, sa motivation à dénoncer Marineland, c'était surtout de libérer le morse Smoochie de qui il s'est était beaucoup attaché, mais essentiellement, Philippe Demers, il voulait dénoncer quelle pratique à Marineland exactement?
Il y a des allégations qui sont faites dans le film, donc je vous invite de le visionner. Il est disponible sur gem.cbc.ca en ligne. Il y en a fait plusieurs au fil des années, qui sont disponibles dans les médias aussi. Moi, j'ai accepté d'en inclure quelques-unes de ces allégations pour vraiment peindre un portrait assez clair, mais je voulais pas mettre le focus sur ça. Ce que je voulais faire, moi, c'est vraiment rentrer dans l'histoire humaine de sa bataille, sa psychologie comme lanceur d'alerte, ses difficultés et aussi le changement de paradigme qu'on vit vis-à-vis cette pratique. Comme vous dites, vous avez changé d'avis après le film Blackfish.
Et vraiment. Et bon, Philippe Demers, comme les auditeurs vont pouvoir le voir dans le documentaire, il a dénoncé, entre autres, les très, très petits espaces dans lesquels sont gardés les animaux, le fait qu'on entraîne les animaux avec la, je sais pas en français, là, deprivation, c'est déprivation.
Oui, c'est ça. En fait, c'est de priver les animaux de nourriture,
de nourriture
leur donner
faim. Ouais. Je cherchais la traduction exacte, je l'avais pas, mais oui, c'est ça. Dans le fond, on entraîne les animaux en les privant de nourriture pour qu'ils finissent par faire ce qu'on veut. C'est le type de pratique que Philippe Demers a dénoncé. Madame Bibeau, il a été invité, Philippe Demers, 4 fois au Joe Rogan Show. Il a témoigné devant le Sénat canadien dans le cadre d'un projet de loi qui voulait essentiellement empêcher
la captivité des baleines.
Exactement.
Et des pitofins. Oui.
Et d'ailleurs, ce qui était surprenant, c'était de voir que les conservateurs étaient plutôt favorables à Marineland là-dedans. Mais
t'avais un fan du Marineland là-dedans.
Oui, c'est un petit peu bizarre. Il a acquis, Philippe Demers, une notoriété très importante en rapport avec son combat. Mais aujourd'hui, Philippe Demers, il est vu comment publiquement, selon vous? Est-ce que c'est un héros ou bien c'est quelqu'un d'arrogant qui s'est acharné sur Marineland, selon vous?
C'est les deux.
Oui, c'est les deux. Hein?
C'est vraiment les deux, oui, c'est ça. C'est comme un héros, c'est aussi un anti-héros un peu. C'est pas un héros classique, tu sais. Donc, je pense qu'il y a aussi un certain genre qui le voit comme quelqu'un qui veut se promouvoir, qui est vraiment là pour faire le gros boss sur les médias sociaux. Par contre, ce que je voulais faire, c'est essayer de montrer son humanité, que oui, absolument, il aime beaucoup l'attention. Oui, c'est vrai, on le nie pas dans le film. Mais ça vient je pense que ses valeurs sont vraiment à la bonne place, puis c'est quelqu'un qui est très honnête, authentique. Et je vais essayer de montrer sa difficulté avec tout ça, et que sa frustration sur les médias sociaux, qui peut être pas mal hostile, en fait, des fois avec les gens, ça vient d'une vulnérabilité. Il se sent prêt, tu sais, attaqué par Marineland parce qu'on le croit pas. Ça fait 8 ans là, qu'il essaye de nous convaincre qu'il dit la vérité.
Et le documentaire Blackfish, dont j'ai parlé dans mon introduction, lui a mis en lumière les dangers de mettre des épaulards en captivité et par le fait même la maltraitance de SeaWorld par rapport à leurs épaulards. Ça a eu un impact énorme sur l'industrie, ce documentaire-là. D'ailleurs, aujourd'hui, SeaWorld ne fait plus la reproduction d'épaulards et ils ont cessé les spectacles d'épaulards. Alors, c'est pour montrer l'impact que le documentaire a eu dans l'industrie. Selon vous, s'il n'y avait pas eu le documentaire Blackfish pour un peu brasser la cage des parcs aquatique. Est-ce qu'il aurait été possible pour vous, Mme Bibeau, de faire un documentaire semblable aujourd'hui?
C'est une excellente question. Ce que les gens connaissent pas, c'est que Phil est sorti comme lanceur d'alerte 1 an avant Blackfish. Donc lui, il est sorti en 2012.
Okay.
L'entraîneur dans Blackfish, Dan Branchot, elle est morte en 2010, mais le film est sorti en 2013. Donc lui, il prédate en fait Blackfish. Donc lui, il a fait exploser ça au Canada et à l'international pas mal tôt. Est-ce que j'aurais pu faire le documentaire? Je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que Blackfish est vraiment un symbole du temps, un symbole de l'époque. Donc si c'était pas Blackfish, ça aurait pu être autre chose. Je pense qu'on est rendu à un moment historique on se questionne beaucoup sur nos relations avec les animaux en général. Donc, il me semble qu'il y aurait eu quelque chose. Tu sais, je pense que c'est ça que je crois. Mais ça m'a aidé, c'est sûr, de faire ce film dans ce climat-là. Ça veut pas dire que je ne reçois pas l'hostilité de Marineland. je la reçois quand même. Parce que il y a une résistance au changement à ce niveau-là, qui est très difficile maintenant, en ce moment-là. Mais Voilà.
Ouais. C'est ma prochaine question. J'imagine que Marineland a été mis au courant de la production d'un tel documentaire qui impliquait Philippe Demers, qui était un petit peu leur ennemi, en quelque sorte, là, ce qu'on peut dire. Est-ce que Marineland ont tenté de vous contacter durant la production du documentaire ou depuis la diffusion? Est-ce qu'ils ont essayé de vous empêcher un petit peu de montrer ce film-là?
Je vais être honnête avec vous et je vais vous dire oui. J'ai rentré en contact avec eux il y a 18 mois. Je leur ai demandé la participation. Je voulais en fait montrer l'autre côté.
Ouais.
Puis c'était pas juste pour être une question de journalisme, c'était vraiment une curiosité humaine surtout après que le propriétaire est mort de Mainland, c'est le propriétaire qui était le chef pendant 60 ans est mort. Et donc, je me suis dit que peut-être la femme ou l'avocat qui est en train de l'aider avec le parc maintenant pourrait donner leur version de l'histoire et peut-être que je pourrais humaniser en fait Mainland un peu. Mais j'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai écrit 9-10 lettres. J'ai eu des rencontres, j'ai eu des appels téléphoniques et puis ce que j'ai reçu, malheureusement, c'est une résistance assez extrême. Et maintenant, je vis un peu ça aussi. Donc, voilà.
Ouais. Et en terminant, Madame Bibeau, l'essence du documentaire, en fait, la motivation principale de Philippe Demers, c'était de sauver un morse qui s'appelle le Smoochie. Moi, il me manque 15 minutes à la fin du documentaire. Je vais vous avouer qu'il me manque. Je veux juste, en fait, sans dire de punch ni rien, mais est-ce que la fin est heureuse pour Smoochie, le fameux morse présentement? En fait, le morse dont il est question, ou c'est une fin un petit peu plus malheureuse, mettons?
C'est une fin ouverte. C'est pour ça que j'ai signé le film comme ça, ouverte. On ne le sait pas encore. Et il y a plusieurs gens qui m'ont demandé cette question-là. Pourquoi avez-vous décidé de terminer ce film maintenant? Quand est-ce qu'on sait quand un film est terminé, quand l'histoire est terminée? Et pour moi, j'adore les fins ouvertes parce que je trouve que ça peut poser des questions encore plus intenses que si on boucle la boucle très, très bien. Mais je dirais que moi, je voulais aussi faire réfléchir les gens tant qu'à Smoochie elle-même. On croit qu'elle est encore à Marineland. On croit qu'elle est en santé. On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça fait 8 ans que ça ne l'a pas vue. Ouais. Et c'est sûr que ça demeure sa mission principale. Et on verra ce qui va arriver.
Alors, Mme Bibeau, on peut visionner le documentaire sur le site de CBC. Est-ce qu'il y a une autre plateforme? En fait, si on veut le regarder, documentaire, on se rend où exactement?
Donc, gem.cbc.ca, c'est un peu comme Tout TV. Et aussi, si vous êtes il y a personne peut-être qui écoute qui est en Ontario, mais il fait partie du festival Hot Docs maintenant en ce moment, le festival virtuel, donc il est disponible là jusqu'à la fin juin. Ensuite, il va faire partie du festival à Vancouver, Doxa, en juin aussi. Et je suis en discussion avec des distributeurs américains pour le faire diffuser ailleurs et en Europe. Et au Québec, en fait, je veux parler avec Radio-Canada pour voir si on peut avoir une traduction en français.
C'est ça.
Et je vais ajouter en fait que il y a un épisode aussi que je suis en train de finir le montage sur CBC The Nature of Things qui est sur le même sujet. Donc, je vais continuer à suivre l'histoire. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe avec Smoochie dans les prochains mois, je vais être capable de l'inclure dans cet épisode qui va être diffusé en octobre.
Parfait. Madame Bibeau, ça m'a fait plaisir de faire un peu la promotion de votre documentaire. Je pense qu'il doit être vu par de nombreuses personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, cet après-midi.
C'est moi qui vous remercie, en fait, parce que étant franco-ontarienne, je veux vraiment que les Québécois écoutent ce film. Ah oui. Donc, vous êtes les premiers et félicitations.
Merci beaucoup, Madame Bibeau, ça nous a fait plaisir. Merci.
Merci.
Alors, Nathalie Bibeau est réalisatrice du documentaire Le Morse et le lanceur d'alerte de Walrus and the Whistleblower. Vous avez compris que pour l'instant, il est disponible en anglais uniquement, mais elle travaille très fort à avoir une traduction. Si vous comprenez l'anglais à un niveau assez correct pour pouvoir regarder le film, je vous le conseille fortement.
Il y a toujours les sous-titres, Kay.
Oui, il y a toujours les sous-titres, effectivement, c'est vrai. C'est un très bon point. Vous pouvez le regarder avec des sous-titres. Je pense qu'il faut le voir, ce documentaire-là, sincèrement.
Oui.
Si vous avez un minimum de sensibilité à l'égard du traitement des animaux dans ce type de contexte-là, que ce soit dans les zoos ou dans les parcs aquatiques, c'est important de voir ce documentaire-là.
Ouais, il fait pour les mammifères marins ce que Tiger King vient de faire pour les tigres.
C'est vrai.
Et les films.
C'est un très bon comparatif.
Essentiellement.
Oui.
Et on a la chance aussi, Elisabeth, d'avoir pu parler au whistleblower, au lanceur d'alerte en question, ou également Philippe Demers, qui est dans le documentaire et dont l'histoire est racontée. Il n'était pas tout à fait à l'aise de faire l'entrevue en français, alors j'ai fait l'entrevue en anglais avec lui. Je vais vous présenter ses réponses et je vais vous les traduire au fur et à mesure. Donc, première question que j'ai demandé à Phil Demers, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un lanceur d'alerte?
My motivation was that in every which way that I was trying to help the animals while working at Marineland, I'd realized that it was just not enough and that the problem at its source and core had to be addressed. And so in every which way that I thought that I could help Marineland in-house, I realized the only way to fix this is to, and to make it sure it never happens again, is to make it happen outside of the walls. So really, it was the animal suffering that ultimately inspired me.
Alors, ce que dit Philippe, c'est que la motivation, c'est que peu importe la façon que j'essayais d'aider les animaux à Maryland, ça ne suffisait pas. La seule façon pour moi, c'était de m'assurer que ça ne se reproduise pas, ni à Maryland, ni ailleurs. J'ai demandé par la suite, on en a parlé brièvement avec Nathalie Bibeau, l'aspect de la privation de nourriture.
Oui. Hein,
parce que ça m'a vraiment frappé, parce que tout le monde a vu des spectacles de phoques et d'autres animaux marins dans différents établissements. Et il a dit que tout le monde privait les animaux de nourriture pour pouvoir les entraîner. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai cette affirmation-là?
Yes, it's true. It's absolutely true. Not every person is conscious of the fact that what they're doing is making sure the animal is hungry so that they can reward them. But, you know, food is not reward unless you're hungry. And the hungrier you are, the more attention the trainer has.
Ouais.
Non, mais ça, c'est frappant, ça, comme affirmation.
Fait que vous comprenez que... Puis, parce qu'il y avait eu différentes allégations partout dans le monde. Entre autres, SeaWorld se vantait beaucoup, se targuait du fait que, eux, leur entraînement avec les animaux, entre autres les épaulards, ça ne se passait pas par la privation de nourriture. Vous comprenez comment ça fonctionne, la privation de nourriture? Tu dis à l'animal, si tu m'écoutes pas, si tu fais pas ce que je veux, tu mangeras pas aujourd'hui. Alors, l'animal finit par comprendre que s'il veut survivre,
exact,
il doit écouter. Et SeaWorld avait clamé haut et fort qu'eux, ils faisaient pas ça, alors qu'il y a eu des allégations contraires de la part d'employés de SeaWorld, que c'est exactement de cette façon-là qu'ils entraînaient les animaux. Et à Maryland, on comprend que c'était ça aussi qui se passait.
Tu as parlé de Smoochie, l'adorable morse que tente de sauver Philippe Demers. En fait, c'est vraiment particulier parce que dans le documentaire, on comprend qu'il y a un lien très fort entre eux deux parce que Smoochie considère Philippe comme sa mère.
Ouais.
Et ça, c'est très, très fort comme lien. Alors, j'ai demandé à Philippe Demers à quel point c'était fort ce lien-là et qu'est-ce que ça lui amenait dans sa bataille.
It's what fuels me every single day. I mean, if it wasn't for the sake of the power of that bond, I wouldn't have the fuel to keep this fight going. But, you know, as tired as difficult as it's been, you know, I still have plenty of energy to fight, and that's a testament to our relationship.
Do you have a strong hope to see Smoochie again?
I've never let go of that hope. I've always had it, and it's never been stronger.
Philippe nous dit, c'est ce qui me donne la force de continuer, la force de ce lien. Malgré la fatigue, j'ai encore l'énergie de continuer. Ça en dit long sur mon lien avec elle. Je n'ai jamais perdu espoir de la revoir. J'ai parlé des médias sociaux parce qu'il est très actif sur Twitter. Nathalie l'a dit. C'est un gars qui est rough sur Twitter. Des fois, il est virulent envers les gens.
Il y a des dizaines de milliers d'abonnés, en fait, là.
J'ai parlé du côté sombre un peu des médias sociaux, hein, parce que autant ça peut servir à des batailles nobles, autant ça peut servir à des batailles un petit peu moins nobles. Voici ce qu'il avait à dire là-dessus.
Well, for me, the good news is I just have overwhelming support, and my experience has been, you know, really, really positive. I think it's important that you have a platform that everyone is able to offer their viewpoints. It is a strange place that you can use it to weaponize, and you hope that, you know, in all ways, shapes, or form, anything can be weaponized for evil doing. But you hope that people maybe find a more sensible resolution when feeling the need to express themselves. Maybe not do it so voraciously. Like, you know, I understand that people, and me especially, I mean, I can attest to what it feels like to want to be heard. So, I mean, I know the frustration, but, you know, the platform isn't the answer for everybody. And I was just very lucky that for me, it serves me very well.
Alors, Philippe me répond, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup de support sur les médias sociaux. C'est important qu'il y ait une plateforme pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais évidemment, ça peut être utilisé comme une arme. Peut-être que les gens devraient les utiliser moins férocement. Voraciously, c'est ce qu'il dit, mais pour moi, ça a été positif et utile. Mm-hmm. À un moment donné, dans le documentaire, Elisabeth, t'as peut-être remarqué la scène du barbecue où est-ce qu'il se fait cuire des steaks. Et on apprend que oui, il défend les animaux, mais il n'est pas vegan, il n'est pas végétarien.
Ouais.
Et à cause de ça, il y a des vegans qui le détestent, qui ne l'appuient pas. J'ai demandé de s'exprimer là-dessus.
I mean, I'll say this. I believe that people should, in every which way, shape, or form, fight for what they believe in. And sometimes that requires making other people uncomfortable. And I'm a target for that. And I've been uncomfortable. And in the same way, I've made other people uncomfortable. The thing that I just can't necessarily process is that, you know, I got a lot of attention and people know who I am because of this fight that I've done, which has largely inspired people. And, you know, as a meat eater fighting for animals, you know, perhaps if every meat eater fought for animals, maybe we could advance the vegans' agendas collectively. If the vegans maybe weren't, if some vegans weren't so busy trying to alienate people that just aren't making their grade. It is just a strange thing because, yeah, I didn't go into this for anyone's necessary approval, but you know, with everyone's help and support, we can really move the needle here. We can really accomplish amazing things. It just astonishes me that some people will philosophically want to support you but won't, and by virtue of actually harm, you know, really really productive causes.
Phil Demers dit, je crois que les gens doivent se battre pour ce qu'ils croient et ça rend certaines personnes inconfortables. J'ai eu beaucoup d'attention. Si tous ceux qui mangent de la viande se battaient pour les animaux, ben en fait, on avancerait les objectifs des vegans. C'est dommage que certains vegans, par contre, se battent contre toi et donc nuisent à une cause qui est importante et qu'ils partagent.
Mais ça, c'est pas juste du tout parce que moi, je suis pas vegan du tout puis cette cause-là m'a touché profondément. Puis si j'avais eu l'opportunité d'entrer dans cette bataille-là, ben peut-être bien que je serais entré à l'intérieur
mais
de cette bataille-là.
Mais tu sais qu'il y a des vegans qui auraient dit, ah, oh, t'as pas le droit de parler parce que tu manges de la viande.
C'est ça. Ben regardez, battez-vous tout seul à ce moment-là. Vous avez des alliés qui veulent défendre une cause commune avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partager une bataille commune, par exemple. C'est ça que des fois, qu'il y a certaines personnes qui sont très extrêmes dans leurs croyances. C'est le genre de choses qu'ils ne comprennent pas. Tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais si tu as un filon qui t'accroche à l'autre personne et que vous avez la même pensée sur cette bataille-là, puis vous en allez dans la même direction, ben alliez-vous, puis allez-y, tu sais.
Puis en terminant, j'ai demandé à Phil quel était son message à ceux qui disent « Ouais, mais moi, je pense que on devrait continuer dans les zoos, tout ça. » Puis là, encore une fois, c'est son opinion. À lui, je suis pas en train de dire, moi-même, j'étais dans les zoos, puis j'ai taponné des bébés tiques, tout ça.
Oui.
Fait que je suis pas en train de lancer la pierre à qui que ce soit. Mais j'ai demandé à Phil, lui, son message personnel aux gens qui pensent que ces lieux-là devraient continuer de fonctionner de la façon qu'ils fonctionnent.
Well, my message for them would be watch the documentary. If at the end of the documentary, you aren't convinced that that these places harm animals far greater than any good that could come out of it, then I don't know that I can convince you. So there will always be a small portion of population that support these places, but because that's an ever-diminishing number, eventually those places won't exist. So I would say enjoy your short period on the wrong side of history because we're wiping zoos out.
Alors, il est sans compromis dans sa réponse. Il dit, mon message, regardez le documentaire. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a plus de mal que de bien à cet endroit et dans ce genre d'endroit, je ne sais pas comment vous convaincre. Un jour, ces endroits n'existeront plus. Alors, profitez de votre courte période du mauvais côté de l'histoire parce que nous allons fermer les eaux. Alors, et comme je vous dis, il y a un point de vue très, très radical.
Très tranché.
Là-dessus, très tranché.
Mais je salue, par exemple, le temps et l'énergie qu'il a mis dans ce combat-là parce qu'une chose qui est sûre, c'est que Marineland ne serait pas au point où elle est présentement sans Philippe Demers et sans le combat qu'il a mené. Avec beaucoup d'énergie contre les pratiques de Marineland. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Smoochie, le fameux morse qui est dépeint dans le documentaire. Vous allez apprendre à la connaître. On finit puis on est très, très attachés à cet animal-là. Puis ça brise un peu le cœur de voir de quelle façon elle est traitée là-bas. Alors, les auditeurs, en passant, 25-226, qu'est-ce que vous pensez d'un parc comme Marineland ou SeaWorld? Est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous pensez que ce genre de pratique-là s'est révolu puis qu'il faut passer à autre chose? Et sinon, je vous encourage fortement à voir le documentaire The Walrus and the Whistleblower qui est disponible pour l'instant uniquement en anglais, mais vous pouvez l'écouter avec des sous-titres en français sans problème. Et la réalisatrice, d'ailleurs, aimerait beaucoup le faire traduire en français éventuellement. Il est 16h33.
Avoir une voiture qui fonctionne, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on est toujours ouvert chez Silencieux Proto. Aussi, tous les fournisseurs sont aussi en opération, donc pas de problème d'approvisionnement. Les contacts avec les membres du personnel sont limités et ils sont très stricts sur les règles d'hygiène. Par contre, c'est pas l'heure de venir en famille. Juste le conducteur, c'est assez. Votre Silencieux a pas attendu que le virus soit passé pour briser. Silencieux Proto est là, sur Saint-Claude à Québec et sur Kennedy à Lévis.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine au choix du rôtisseur, servie avec tous les accompagnements à seulement 7,75 $ plus taxes au service à l'auto.
2020, l'été des patios. Passez voir les nouveautés chez Poêle et Foyer Portneuf. Les barbecues Weber, Sabre, Kamado, la plancha, tous les accessoires, briquettes, charbon, les granules, Weber, feuilles d'érable, Kamado, xylocarbone, Poêle et Foyer Portneuf à Pont-Rouge.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Lavage de mains à répétition? Mains irritées et sèches? Cutibas Crème à main répare et protège. Disponible en pharmacie. Faites-en la demande. Cutibas Céramide Crème à main est faite ici au Québec.
En juin 2020, faites partie de l'équipe. Rejoignez le syndicat québécois de la construction. Parce que pandémie ou non, on serre la vis sur les chantiers pour votre santé. Visitez-nous à sqc.ca pour tous les détails.
FM 93, promo, concours. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
En fin de semaine, je m'occupe de la musique et de votre barbecue. Vous pourriez gagner un ensemble de produits d'une qualité inégalée livré chez vous de distribution Kevin Lorando. Un super kit barbecue, valeur de 150$. Pour gagner, écoutez la grande messe du rock. Collaboration, distribution Kevin Lorando.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Vous en parle. Au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
16h35, on en a parlé au début de l'émission de ce qui se passe présentement de l'autre côté de la frontière. Ça a pris, en fait, c'est une escalade de violence depuis 3 jours. Ouais. Ça a commencé avec le décès de George Floyd, qui est un Afro-Américain qui avait été arrêté après ma barre pour... il était soupçonné d'avoir voulu passer un faux billet de 20$. Il a été arrêté par 4 policiers. Et lorsqu'il était menotté face contre terre au sol, le policier a ensuite pratiqué une prise que tu connaissais, Jean-Simon. En fait, il s'agit de mettre le genou sur la carotide de la personne.
Ouais, c'est une prise de soumission. C'est que c'est un point de contact qu'on va utiliser des fois en arts martiaux, en pratique. Sauf que rapidement, la personne tape pour indiquer qu'elle se soumet. Puis c'est parce qu'elle se soumet parce que plus tu vas peser, moins l'oxygène va se rendre au cerveau.
C'est
ça. Donc tout le monde sait, tout le monde qui connaît cette prise-là, savent que c'est pas quelque chose que tu fais longtemps sur une longue période parce que c'est dangereux.
Et là, ça a été fait sur plusieurs minutes et ça a été filmé. Le tout a été filmé par des passants. Ça a été partagé sur le web des millions de fois, en fait des centaines de milliers de fois. Et on peut voir que George Floyd, au début de l'altercation, en fait, une fois qu'il est menotté au sol puis qu'il bouge plus, il dit qu'il est plus capable de respirer. Je respire pas, tuez-moi pas. Et à la fin, dans la vidéo, il est inconscient totalement et il est décédé quelques heures après. Le policier en question, les développements dans les dernières heures, il s'appelle Derek Chauvin et il a été arrêté, accusé de meurtre au 3e degré. Donc, ici au Québec, on appelle ça un petit peu homicide involontaire, là, finalement. Et donc, il a été arrêté ce matin au terme d'une 3e nuit d'affrontement assez violent entre les policiers et les manifestants à Minneapolis. On va aller un petit peu essayer de démêler tout ça, là, parce qu'il y a eu plusieurs étapes et plusieurs événements en même temps. Pour en parler, on rejoint Valérie Beaudoin, notre chroniqueuse en affaires internationales chez Cogeco. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, ça a bougé beaucoup là, dans les derniers jours. Déjà, c'était une grosse histoire lorsque c'est arrivé mardi, mais là aujourd'hui, c'est devenu une histoire encore plus grande. On va essayer de reprendre la chronologie des événements. À partir du décès de George Floyd, il y a eu déjà la première nuit des affrontements entre plusieurs manifestants et les policiers.
Oui, il y a eu autant des manifestants pacifiques, il y a eu des casseurs aussi au début, parce que toujours ces gens-là qui vont aussi se joindre aux manifestations. Là, on le voit aussi au Québec, on le voit ailleurs. Alors que ça l'a brassé pendant 3 nuits à Minneapolis, au Minnesota, vraiment en réaction, et vous l'avez super bien décrit d'entrée de jeu, là, comme on dit, le meurtre de cet individu-là, parce qu'il a carrément étouffé avec son genou pendant plusieurs minutes. Et les images, moi, ça me glaçait le sang de voir ça. Ça a circulé abondamment aux États-Unis. Et c'est pas la première fois qu'un homme noir aux États-Unis est abattu aux mains d'un policier blanc. Et dans ce cas-ci, il y a eu des accusations finalement. C'est arrivé aujourd'hui. Et le procureur, en point de presse, a dit, ben pourquoi avoir attendu à la lumière de la preuve? Parce qu'il y avait quand même une vidéo assez claire. Là, c'est pas des vidéos où on voit juste la fin de l'altercation, on voit pas le reste de ce qui s'est passé. On avait vraiment de très, très bonnes images du moment où la personne est sortie de la voiture, du moment où elle est menottée. Alors, ce qu'il a dit, il dit, on a un immense fardeau de la preuve parce qu'on parle ici d'un policier. Un policier a le droit d'utiliser la force dans des circonstances X, Y, Z. Donc, de prouver qu'il n'a pas eu une bonne intention en utilisant la force, c'est beaucoup plus difficile que pour un citoyen ordinaire. Alors, il a dit que dans d'autres cas, ça peut prendre jusqu'à 9 mois pour décider si oui ou non on porte des accusations, mais qui ont fait ça très rapide justement en raison des circonstances et aussi parce que la preuve était vraiment accablante pour ce policier-là. Et là, on réclame et c'est ce qu'on risque de voir dans les manifestations ce soir, parce que je serais prête à parier qu'il va y en avoir d'autres, que les 3 autres policiers qui étaient à proximité, eux aussi, soient accusés finalement.
Oui, parce que en fait, quand j'ai vu son arrestation, je me suis dit peut-être que ça va calmer les ardeurs de certains manifestants, mais après ça, je me suis dit, oh boy, non, c'est parce qu'il en reste 3 autres là, qui ne sont pas intervenus et ça va peut-être qui sont un petit peu complices, en fait, de l'événement. Et tant que ces 3 personnes-là ne sont pas arrêtées ou traitées en justice, je pense pas que les manifestants vont se calmer, là, nécessairement. Valérie, il y a une chose, par exemple, qui est particulière dans cet événement-là. Contrairement à d'autres événements événements à saveur raciste qui ont eu lieu aux États-Unis dans les dernières années, c'est que pour celui-ci, à moins que je me trompe, il me semble que la réaction est assez unanime. J'ai pas vu personne défendre le geste du policier en tant que tel.
Oui, parce que dans d'autres circonstances, bon, la personne avait quelque chose dans les poches, la sortait, il y avait une défense qu'on utilisait, qu'elle soit valide ou non, et c'est pas ça, je pense, l'objet de tout ça, mais on disait toujours, bon, la personne s'est défendue, elle croyait qu'il y avait une menace à sa vie, et souvent, on avait une seule version des faits avec une vidéo où on voyait une partie de l'intervention où c'était vraiment la parole des policiers contre la parole des témoins. Et là, écoutez, même si quelqu'un voulait dire non, le policier a bien agi, les images, ils veulent tout dire. Alors, c'est extrêmement difficile à défendre ce que le policier a fait. Il faut dire qu'il a été mis à la porte, mis à pied très, très rapidement. Ça, je pense que ça l'a aidé. Mais là, si on va un peu plus loin dans tout ce qui s'est passé, les réactions qu'il y a eu face aux manifestations, entre autres du président américain la nuit dernière, ça va exacerber, ça va empirer la situation. Je serais prête à le parier au Minnesota, là.
Et je veux qu'on parle un petit peu de la réaction de Donald Trump aussi, parce que lorsque l'événement est arrivé, je pense que sa réaction via sa porte-parole a été la bonne, c'est-à-dire qu'il a condamné le geste dès le départ et il a dit « j'espère que l'enquête du FBI va en venir à un résultat assez rapidement ». Par contre, par la suite, ça s'est un petit peu gâté sur Twitter, là. On va rappeler aux auditeurs un petit peu ce qui est arrivé. En fait, Donald Trump s'est servi des manifestations pour un peu tourner ça à la violence, là.
Oui, il a dit finalement, ben si les gens manifestent, si je résume la chose, ben il y a un danger d'être tiré, alors d'être vraiment d'être fusillé, je sais pas comment l'expliquer, le traduire vraiment très très bien, mais c'est ce qu'il a dit et il a tweeté ça hier à 1h du matin environ pendant qu'il y avait les manifestations. On appelle ça peut-être jeter de l'huile sur le feu comme on dit, parce que pourquoi faire cette déclaration là. Aujourd'hui, c'est un peu rétracté en disant non, c'est plus sans voulant dire ben s'il y a des pilleurs ou des gens, il y a un danger pour leur vie et je veux les mettre en garde que ça arrive.
Okay.
Mais ça a pas été fait de la bonne façon et c'est certain que les gens quand on voit ça du président des États-Unis qui disent, mais écoutez, la garde nationale s'en vient et si vous manifestez, ben vous êtes menacé d'être tiré. Ça aide pas la relation entre les Afro-Américains et les policiers et la force de l'ordre aux États-Unis de façon générale. Alors, ça ne l'a vraiment pas aidé à un point tel que Twitter a décidé de masquer en quelque sorte sa publication en disant que c'était une glorification de la violence et que c'était contre les politiques.
Alors, au moins, il s'est rétracté aujourd'hui. Là, c'est déjà ça du côté politique. Par contre, il n'a pas manqué d'accrocher au passage le maire de Minneapolis en disant que c'était lui qui était un faible et qui n'était pas capable de gérer sa ville comme il faut. Là. Mais je suis pas sûre que n'importe quel politicien qui est à la tête d'une ville où il y a des actes comme ça qui se passent, ça doit être assez difficile à contrôler à la base. Là. Mais bref, Valérie, donc, on vient de parler du côté politique de Donald Trump. Du côté de la police et du FBI, est-ce qu'on sait si éventuellement il va y avoir des accusations envers les trois policiers? Est-ce que l'enquête à ce niveau-là continue de progresser? Est-ce qu'il y a des choses qui ont commencé à couler ou pour l'instant, on est dans le néant et ça se peut qu'ils aient rien du tout, là?
Oui, c'est très possible qu'il y ait d'autres accusations pour les trois autres policiers. Non seulement ça, c'est possible aussi qu'il y ait des accusations pour le policier qui est déjà accusé de meurtre au troisième degré, qui soit beaucoup plus grave.
Okay.
Parce qu'on a donné ces accusations-là de base et on va continuer l'enquête. Donc, on a voulu faire une arrestation rapide, je dirais. Et là, on pourrait donner des accusations beaucoup plus graves. Alors, l'enquête va continuer. Le FBI a dit épauler la police là-bas sur place, bien sûr, avec cette enquête-là. Il y a des preuves vidéo, il y a des caméras de surveillance qui sont utilisées. Et oui, on pourrait accuser les policiers, mais aussi cet homme-là, qui est vraiment celui qui a fait la prise, là, comme tu l'as bien expliqué, de soumission, en quelque sorte, pendant 8 minutes. Lui, peut-être qu'il pourrait avoir des accusations encore plus graves, peut-être de deuxième degré. Et la famille de la victime réclame même des accusations de meurtre au premier degré.
OK. Ça va être à suivre.
Oui, oui, tout à fait. Et petit fait, peut-être que je rajouterais du côté politique que je vous ai pas mentionné. On attendait beaucoup de la conférence de presse du président cet après-midi.
Il parlait de la Chine, finalement.
Oui, j'ai tweeté, ça, c'est vraiment bien pour illustrer mon propos. Je me suis demandé si j'hallucinais, si j'avais raté le début de la conférence de presse carrément, parce que je me suis dit, voyons, on peut pas commencer une conférence de presse sans dire un mot quand le Minnesota est à feu et à sang à Minneapolis. Et non seulement, il n'y en a pas parlé au début, mais il n'en a pas parlé du tout de son point de presse. Il n'a pas pris de questions des journalistes et ça n'aidera pas.
Non, il a parlé de l'OMS. Il a dit un mot sur l'OMS, un mot sur la Chine et puis effectivement, pas un mot partout sur le policier.
Valérie, je regarde le contexte aux États-Unis, là, puis je veux pas affoler les gens, puis je veux pas... T'as le président Donald Trump qui continue de faire ce qu'il fait depuis le début de son mandat, puis qui en plus s'attaque aux médias sociaux. T'as ce qui se passe à Minneapolis, qui n'est qu'un incident de plus dans de nombreux incidents racistes et où est-ce que des Noirs perdent la vie aux États-Unis. T'as une bande d'illuminés qui croit à QAnon puis qui pense qu'une tempête s'en vient. T'as des extrémistes de droite et des néo-nazis qui espèrent un bougalou, une guerre raciale aux États-Unis. Et t'as les élections américaines qui s'en viennent où est-ce que t'as Joe Biden contre Donald Trump avec une possibilité que Donald Trump ne soit pas réélu et des partisans qui n'accepteront vraisemblablement pas la défaite. Est-ce que ça sent le conflit civil aux États-Unis?
Et oui, et tu me donnes pas le goût de continuer d'être spécialisée en politique américaine à la lumière de tout ça. C'est assez décourageant ce qui se passe pour beaucoup d'Américains. Je me mets à leur place parce que nous, on voit ça de l'extérieur comme Québécois, comme Canadiens, mais les Américains qui vivent ça au jour le jour, être pris un peu dans toutes ces guerres, on appelle ça une guerre culturelle aux États-Unis, là, ouais. Ça doit vraiment pas être facile. Et non, ça sera pas un automne qui va être facile non plus, parce qu'avec ce contexte-là, c'est explosif déjà, et on est au début, on n'est même pas à l'été encore. La campagne électorale ne bat pas son plein non plus. On a toujours la question de est-ce qu'on peut déplacer les élections. Je voudrais que théoriquement non, selon la Constitution, selon les lois fédérales, mais il va y avoir toute cette guerre-là, en quelque sorte, à savoir comment on peut aller voter cet automne et si le vote se fait par la poste, est-ce que ça va être contesté par le président s'il perd au lendemain des élections? Alors, il y a vraiment, malheureusement, c'est pas rose, je vous dirais, l'avenir qu'on peut voir en ce moment aux États-Unis.
Valérie, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Valérie Beaudoin, notre spécialiste en affaires américaines pour Cogeco Médias. Je vais vous dire une chose, par contre, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense pas. J'ai beaucoup confiance, par contre, à la justice américaine quand il est question de traiter ce nombre de cas-là, parce que, selon ma compréhension des faits, moi, je pense que le racisme qui existe envers les policiers et les gens de la population afro-américaine aux États-Unis, c'est pas un racisme qui est situé dans les très, très hautes instances, c'est un racisme qui est situé sur le terrain. Je pense que les agents policiers qui sont sur le terrain avec ce type de personnes-là, il y en a plusieurs là-dedans qui sont malheureux. Des racistes. Par contre, les gens qui sont à la tête du FBI, qui sont aux enquêtes criminelles, je pense qu'ils ne laisseront pas passer un événement comme ça sans rien dire. Et j'ai confiance en cette justice-là. C'est ça ma compréhension du racisme aux États-Unis. Il y a énormément de racisme envers des policiers, envers la population afro-américaine sur le terrain, mais pas mal moins dans les hautes instances.
Moi, je suis plus pessimiste que toi et je pense que c'est plus institutionnalisé que ça. Et loin de moi l'idée de dire que Donald Trump est raciste ou que les partisans de Donald Trump sont racistes. Par contre, je peux dire que la plupart des racistes sont partisans de Donald Trump. C'est plate à dire, mais Donald Trump a, comment on pourrait dire ça, normalisé un certain discours. Il a normalisé un certain discours extrémiste. Il retweet souvent des extrémistes. Là, Twitter s'y attaque. Là, il veut attaquer Twitter et tout ça. Donc, quand tu normalises un certain discours, ça ne veut pas dire que tu y adhères nécessairement. Mais Donald Trump n'est pas fou. C'est pas un imbécile. Moi, je ne crois pas que c'est un imbécile. Au contraire, je pense que c'est un gars qui est stratégique et intelligent. Il comprend qu'il a besoin de ces gens-là pour se faire élire. Il a besoin des extrémistes pour se faire élire. Donc, il ne dénonce pas trop. Il laisse aller. Parfois, il retweet. Il joue sur une ligne grise qui est dangereuse à mon sens. Tu as raison pour la justice, on va sanctionner Derek Chauvin et Elisabeth et probablement les autres policiers. Et je crois au système de justice aussi. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'on a une nation présentement qui est divisée plus que jamais, peut-être qui n'a jamais été aussi divisée que depuis les années 1860, c'est-à-dire la guerre de sécession. Et je suis pas en train de dire qu'il va y avoir nécessairement une guerre civile, mais on n'a jamais été aussi près d'une guerre civile aux États-Unis que présentement. À mon sens, selon ce que j'entends des analystes et ce que je suis de l'actualité, donc c'est mon humble opinion. Je pense que c'est une nation qui est au bord du précipice.
Il faut qu'il y ait un changement, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un gros brassage de cage qui se fasse
et
aux États-Unis.
Et pour que ça aille mieux, des fois, il faut que ça aille pire, malheureusement.
Alors, j'espère vraiment que George Floyd va être le dernier événement d'une grande importance à saveur raciste aux États-Unis de la part d'un policier envers une personnalité afro-américaine. J'espère vraiment que ça va être le dernier. George Floyd, il est mort il y a 3 jours alors qu'il n'aurait pas dû mourir. C'est un policier carrément. En fait, à mon avis, à moi, la justice va on va voir avec un éventuel procès à quel niveau sa responsabilité se situe. Mais c'est carrément un policier qui a causé sa mort. Ça, c'est sûr et certain. Et j'espère que George Floyd va être le dernier maillon dans l'espèce de fil où on doit cesser ce racisme-là et ces interventions-là pas mal plus violentes envers des personnes noires que des personnes blanches aux États-Unis. Alors, c'est à suivre, mais c'est certain que cette histoire-là, on va en parler. Et la différence, Jean-Simon, qui est encourageante entre aujourd'hui en 2020 et, voilà, mettons, 30-40 ans où un événement comme ça se produit, c'est que George Floyd, il y a 30-40 ans, on n'en aurait pas parlé.
ça aurait été un événement parmi tant d'autres. Ici, en 2020, c'est un scandale sans nom, une controverse qui n'en finit plus depuis 3 jours. Des manifestations qui sont parfois très violentes. Un policier qui est traduit en justice, accusé de meurtre au 3e degré, et peut-être une accusation plus grande. D'autres policiers qui vont peut-être être accusés aussi. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, mais j'espère que ça va être le dernier quand même. Il est 16h49.
Faites du 47 votre plaisir gastronomique à la maison avec la boîte gourmande 100% Québec pour 2 personnes. Un repas 6 services qui rend hommage aux producteurs d'ici. Un must pour un souper terrasse avec vos amis.
En juin, le 47 présente Goûter le Québec maritime. Une boîte gourmande qui mettra en vedette les trésors du Saint-Laurent. Pour chaque boîte vendue, le 47 remettra $30 à la Fondation Élan.
Sur réservation seulement pour emporter ou livraison à domicile. Voir les menus sur le47.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Chez Kia Lévis, profitez d'offres exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. En ce moment, nous vous offrons jusqu'à 6 mensualités sur nos modèles les plus populaires, allant jusqu'à une valeur de $4,500. Vous avez bien entendu, nous vous offrons jusqu'à 6 mois sans paiement. De plus, bénéficiez toujours d'aussi peu que 0% de financement jusqu'à 84 mois sur modèle 2020 sélectionné. Kia Lévis est là pour vous.
Nouveau Kia Lévis.
Cette semaine, c'est les offres 8-8 chez Métro. On vous fait économiser sur plein de vos produits préférés, mais faut faire vite-vite.
Les offres 8-8? Ah ben parfait, je vais chez Métro vite-vite.
Vous faites bien, il y a des prix réduits 8-8 partout en magasin sur une foule de produits sélectionnés. Comme par exemple, les poitrines de poulet frais désossées sont à 3,88 la livre, le concombre anglais sans pépins est à 88 cents et le fromage sélection 400 grammes est à 3,88. C'est pour ça qu'il faut faire vite-vite.
Pour économiser avec les offres 8-8, Métro, c'est mon épicier d'ici.
Détails et conditions sur métro.ca.
Gestionnaire d'entreprise, gérer les horaires et la paye de vos employés est un casse-tête? La solution, Empresse.net, le logiciel numéro 1 au Québec. Les heures travaillées, le temps supplémentaire, les primes, les fériés, tout est calculé. Emprez.net.
Bonjour, ici Saskia Thuo. Comme bien des Québécois, on n'a jamais autant apprécié le bonheur d'être à la maison et on a envie de lui donner de l'amour. Eh bien, avec leur garantie à vie, leur grand choix de modèles et le verre isotriple, les fenêtres isothermiques de chez Porte et Fenêtres Tremblay ont tout ce qu'il faut pour vous plaire et plaire à votre maison. Porte et Fenêtres Tremblay est la référence à Québec depuis plus de 65 ans. Passez les voir. Ils prendront soin de vous et de votre maison.
C'est le solde printanier Steel chez vos concessionnaires Steel. Quoi de mieux que des produits à batterie Steel? Aucune émission de gaz, plus puissant et moins bruyant. Coupe bordure à batterie FSA 45, 159,95. Les CHN sont à partir de 199,99. À l'achat d'un produit à batterie, recevez 50% d'escompte sur l'achat d'une deuxième batterie. Souffleur, couperbe, balai mécanique, tout est plus simple avec Steel. Détails chez votre concessionnaire Steel.
Vous êtes en affaires et éprouvez des difficultés financières? Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Rencontrez sans frais l'un de nos experts en prenant rendez-vous à llTT.ca. Mallette, avec vous, là où ça compte.
Bouge en parle. Maintenant, au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouge en parle.
Oh, je suis contente qu'on en parle maintenant, Jean-Simon, parce que je t'ai volontairement pas écouté à 13h aujourd'hui dans l'émission.
Ah, OK, pour pas savoir ce que j'en pensais.
Je voulais pas savoir ce que t'en pensais, mais j'ai su par certains collègues que c'était un sujet qui était très émotif pour toi.
C'est rare que mon sang bouille. Puis tu me connais, je suis assez zen comme personne.
Oui, c'est vrai que t'es très zen. On en a parlé d'ailleurs cette semaine de ta zénitude. Fait que...
Je suis pas un péteux de coche.
Non, t'es assez calme.
J'ai des opinions, je lui dis, mais tu sais, je suis un gars qui est calme, puis genre, mais... Moi, il y a de quoi qui m'énerve profondément et qui me donne de l'urticaire, puis c'est quelqu'un qui se prononce sur de quoi qu'il connaît pas. Okay. Mettons, là, hier, Élie, tu m'avais dit, là, « Hey, Jean-Simon, demain, j'aimerais ça que tu me fasses une chronique sur les cosmétiques. » Ben, sais-tu qu'est-ce que je t'aurais répondu? Je t'aurais dit, « Ben, honnêtement, Élie, je suis pas tant à l'aise de te faire une chronique sur les cosmétiques. Tabarouette, je connais pas ça. J'en mets pas. Je disais, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus, les cosmétiques? »
C'est comme si tu m'avais demandé, Elisabeth, j'aimerais que tu me présentes tes meilleurs films de science-fiction. J'aurais dit, je pense que j'ai pas personne pour toi.
Elisabeth, présente-moi tes passages favoris du Seigneur des Anneaux. Tu m'aurais dit, avec raison, je connais pas ça. Puis tu sais, chacun s'attale, crime, chacun s'attale. Puis moi, j'aurais refusé de faire la chronique sur les cosmétiques. Je tombe un matin sur un article de Radio-Canada. Parce qu'il y a un jeu vidéo que j'attends avec impatience depuis longtemps. Ça fait une couple d'années qu'il a été présenté comme en développement. Puis ça s'appelle Cyberpunk 2077, okay? Cyberpunk 2077. Donc, ça se passe à l'année 2077. C'est un jeu de rôle à monde ouvert dans une grande ville, dans le futur. Un futur où les êtres humains ont des implants cybernétiques. Donc, ils s'améliorent. Ils enlèvent leurs bras. Ils ont des bras robotiques. Ils ont toutes sortes d'implants un peu partout. Donc, c'est un jeu très mature qui se passe dans une science-fiction qui est du cyberpunk. Le cyberpunk, c'est justement
ça. C'est quoi ça?
C'est un style de science-fiction où est-ce que t'as de la robotique puis des cyborgs puis ainsi de suite. C'est ça du cyberpunk. Donc, le jeu s'appelle Cyberpunk 2077.
Tu savais qu'il allait sortir à quel moment, en fait?
Il sort en septembre 2020.
Mais depuis quand tu sais qu'il allait sortir? Tu l'attends depuis
2017,
quand, mettons?
2017, je pense.
OK, mon Dieu,
c'est longtemps. Il a été dévoilé à E3, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un jeu que j'attends avec impatience, d'autant plus qu'il est fait par le développeur qui a fait la saga The Witcher, dont j'ai déjà parlé, de Netflix. Mais The Witcher, c'est une obscure compagnie polonaise qui s'appelle CD Projekt Red, qui a commencé à faire des jeux à partir d'une série de livres polonais très vendus en Europe de l'Est, mais assez peu connus. Et finalement, c'est devenu des best-sellers, le The Witcher 3, le troisième jeu qui est considéré comme un des meilleurs RPG, role-playing games, jeux de rôle de tous les temps sur jeux vidéo. Alors là, il arrive avec ça. Alors évidemment, tu comprends que, étant fan de cette compagnie-là, de ce style de jeu-là, ben je l'attends avec beaucoup d'impatience pour le mois de septembre. Et là, un matin, je lis ça. Un jeu vidéo avec du sexe et de la violence suscite l'indignation.
Ben voyons.
Nudité, langage grossier, relations sexuelles explicites, prostitution, suicide et violence, la liste des contenus inappropriés dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077 est longue. Selon
toi,
le
t'attends
centre...
ça, toi.
Hein?
T'attends ça, toi.
Oui.
Un jeu vidéo, il va avoir de l'agression.
Oui. Okay. Selon le centre CyberAid, l'organisme interpelle le gouvernement Legault et lui demande d'intervenir avant la sortie du produit. Et là, là-dedans, on lit que Cathy Tétrault, directrice générale de CyberAid, demande l'interdiction du jeu au Québec puis qu'il ne soit pas publié. Puis là, je te dis,
mais là, un jeu vidéo, il y a des agressions sexuelles, des suicides, et puis qui valorise un peu la violence.
OK. Ben, on va mettre les choses au clair d'abord. Ouais. Oui, ça va être un jeu très violent. Okay. Et oui, il va y avoir des relations sexuelles dedans.
OK.
Mais c'est un jeu aussi qui va être classé mature. Donc, pour un public adulte.
Mature, c'est quoi? C'est 18 ans et plus?
17 ans et plus dans les jeux vidéo.
Bon, ben, je pense qu'à 17 ans, tu es capable de gérer le contenu que tu regardes. Là.
Et averti. Donc, relations sexuelles, oui, nudité, violence, effectivement, tout ça. Et là, je lis là-dessus, puis là, j'apprends. Là, j'ai vu que. Là, je vois que nos collègues du Midi vont faire une entrevue avec Cathy Tétrault. Alors, j'appelle le rechercheur du Midi, puis je dis: aimerais-tu ça que je vienne en parler? Parce que. Puis là, il dit: ben oui, parce que Cathy Tétrault, elle dit qu'il y a des agressions sexuelles dans le jeu.
Ben, c'est ça.
Je dis: il n'y a pas d'agression sexuelle dans le jeu. Puis là, j'ai fouillé. Je me dis: je me trompe peut-être. Là, je fouille dans le jeu, sur Internet, je me dis, j'ai fait mes propres recherches.
Ben oui, t'as fait tes propres recherches.
Les citoyens vieillis seraient fiers de moi.
T'es un citoyen averti là-dedans.
Ouais, c'est
là.
Ça. Okay. Alors, je fais mes recherches, puis je me rends compte, non, il n'y a pas d'agression sexuelle. Oui, c'est vrai, le ESRB, qui est l'organisme qui rate les jeux, donc qui dit c'est 17 ans et plus, ou c'est pour les ados, tout ça, me dit c'est très violent, il y a du sang, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des organes génitaux, puis il y a des relations sexuelles, où est-ce qu'on voit le personnage avoir des relations sexuelles. OK, fine, c'est beau, c'est pour les ados.
C'est un viol, cette agression, ce rapport sexuel-là?
Nulle part, j'ai trouvé de mention de viol.
OK.
Alors, Éric a été assez fin ce midi pour me permettre de participer à l'entrevue avec Cathy Tétrault, directrice générale de CyberAid. Alors, voici ce que ça a donné.
Décrivez-moi objectivement ce jeu-là.
Bien, ce jeu-là est attendu. Moi, c'est un gamer. Je collabore avec plusieurs gamers qui, quand ils voient des choses passer comme ça, qui peuvent aller à l'encontre.
Donc, c'est quelqu'un qui vous a dit ça, mais vous ne l'avez jamais vu, vous avez jamais joué, vous ne savez pas...
Si... Ben voyons, il va sortir en septembre, il va arriver ici en septembre.
Madame Tétrault,
est-ce qu'on attend que le viol soit commis ou on fait la prévention?
Madame Tétrault...
Écoutez bien, en ce moment même, j'ai été mal comprise dans cette lettre. Mm-hmm. J'ai été mal aussi citée.
Okay.
Et ce que je reçois, c'est de la violence. Alors moi, je tente de vous expliquer mon intention derrière cette lettre.
Okay.
Vous savez très bien que le jeu, je ne l'ai pas vu.
Mais est-ce que vous avez
vu...
Vous
savez très bien.
Mais Madame Tétrault, est-ce que vous savez qu'il y a des démos qui sont sorties, des vidéos du jeu depuis plus de 3 ans de Cyberpunk 2077?
Mais pourquoi j'irais voir quand je sais très bien, on m'a bien nommé, on m'a bien expliqué, je me suis renseignée auprès de gens qui travaillent en cybersécurité sur qu'est-ce qui peut apporter ce jeu-là. J'ai eu plein d'autres jeux que j'ai reçus aussi qui sont extrêmement violents.
Mm-hmm.
J'ai choisi celui-là. Madame
Tétrault, vous êtes consciente que, en fait, d'abord, d'une part, je tiens à vous le dire, ce que CyberAid fait, moi, je trouve ça admirable, particulièrement sur la dépendance aux jeux vidéo. Je trouve également aussi que c'est déplorable et inacceptable les commentaires que vous avez reçus. Je trouve ça dégoûtant. Mais en tant que gamer, est-ce que vous êtes en mesure de me croire si je vous dis que je connais beaucoup ce jeu-là, je le suis depuis son annonce, et je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il n'y aura aucune scène de sexe non consensuelle dans le jeu. Il va y avoir des scènes de sexe, mais il n'y a aucune scène d'agression sexuelle. Je ne sais pas qui vous a donné cette information-là, mais j'ai devant moi la notice de l'ESRB qui se charge du rating des jeux vidéo et qui décrit avec beaucoup de détails tout ce qu'il va y avoir là-dedans. Et effectivement, on indique qu'il va y avoir de la nudité, il va y avoir la possibilité de même détailler un peu le corps de son personnage. Et on a dit qu'il va y avoir des activités sexuelles avec différents personnages, mais que ces brèves scènes vont démontrer des personnages en train de faire des gestes suggestifs. Parfois, certaines brèves illustrations également de thrusting motions, donc de d'actes sexuels en quelque sorte, et également bon de la drogue, la violence et tout ça. En aucun cas, le ESRB, qui est un organisme extrêmement sévère, Madame Tétrault, puis je peux vous le dire parce que je suis un gamer depuis plusieurs années, OK? En aucun cas, il y a des scènes d'agression sexuelle.
Je veux juste faire une parenthèse. Oui. Là, mes deux garçons game et puis eux-mêmes ont reçu des messages.
Mais vous comprenez qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, Mme Tétrault, dans ce jeu-là. C'est faux de le dire. C'est juste faux. Parce que s'il y avait des agressions sexuelles, je pense que je serais de votre bord. L'an dernier, il y a eu un scandale incroyable avec un jeu de zombies, un jeu d'apocalypse de zombies dans lequel les joueurs devaient pouvoir commettre des viols. Or, il y a eu un tollé, avec relativement de raison, parce que le débat est pas mauvais, et le jeu a été retiré de Steam. Donc, c'est un débat qui existe. Alors, je peux vous dire que ce jeu-là, qui est un jeu triple A, est très attendu par les gamers, probablement un des jeux les plus attendus de 2020. S'il y avait des scènes de viol et de sexe non consensuel, il y aurait un scandale, et probablement avec raison. Or, il n'y en a pas. Donc, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir un débat sur quelque chose qui n'existe pas, Mme Tétrault, et c'est triste, ça.
Est-ce que ça existe ou pas? Dans le fond, moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait, ça touchait à la violence, au suicide, à la violence sexuelle, à l'automutilation. Si vous me dites qu'il n'y a rien de ça là-dedans,
mais il n'y a pas, il n'y a aucune violence sexuelle.
Mais Mme Tétrault, à la base, là, avant de faire une sortie, avant de faire une sortie puis d'écrire des lettres, vous n'auriez pas dû aller le voir de première main, puis de vos propres yeux. Il me semble que moi, là, quand je parle de quelque chose, je parle à la personne ou je vais lire le texte. Je ne commence pas à me fier à ce que Pierre-Jean-Jacques m'en a raconté.
OK, donc, dans le fond, là, l'entrevue était pour critiquer ce que j'ai fait.
C'est pas du tout, pas du tout, Mme Tétrault. Pour remettre en contexte, Mme Tétrault, simplement que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas voir dans le jeu vidéo. Il faut protéger les jeunes de certains contenus. Par contre.
Mais les jeunes, ils vont pareil.
Non, mais madame, je veux juste vous dire, Mme Tétrault, je veux juste vous dire qu'un jeu comme celui-là, les jeunes de 12, 13 ans, ils jouent pas à ces jeux-là. C'est des jeux extrêmement Non, c'est des jeux de centaines d'heures, Mme Tétrault. Je le sais, j'y joue. Les jeunes, ils jouent à Fortnite.
On recommence. Je fais des sondages et je vais dans les écoles primaires depuis des années.
Ils joueront pas à Cyberpunk.
En troisième année, ben non. GTA, vous allez me dire qu'encore une fois.
GTA, c'est différent. C'est un jeu qui est accessible. C'est pas pareil. C'est comparer des pommes et des oranges, Mme Tétrault. C'est ce que je déplore dans les critiques du jeu vidéo. C'est que souvent, malheureusement, je veux juste terminer mon point. C'est comme si vous me demandiez de faire une chronique sur les cosmétiques. Ce serait fondamentalement mauvais parce que je connais pas ça. C'est ça que je déplore. Malheureusement, beaucoup de gens dans l'industrie du jeu vidéo.
Pas fait de chronique.
Lettre en ne voyant pas le jeu en question. C'est juste ça. Puis je suis pas du tout agressif. Allez-y.
Ben là, vous ne me laissez pas parler.
Non, allez-y, madame.
Vous allez avoir 4000 likes avec votre.
Pas du tout.
Ce que vous venez de dire, mais écoutez bien, là. Moi, je fais de la prévention à tout ce qui est. En passant, je ne suis pas juste en cyberdépendance, je suis en cybercriminalité, puis en sexualité. On étudie, on a des spécialistes dans les trois domaines. On fait de la prévention, on sait les répercussions de ce qui est prôné comme ça. GTA. OK, c'est pas les parents qui donnent accès à ces petites 3-4e années-là. Ce sont les grands frères, souvent, où il y en a qui jouent, puis les petits regardent en arrière. Je reçois plein de commentaires. Je suis sur le terrain. Okay. Si les gamers veulent jouer, qui joue? Je dois vous dire que vraiment, moi, ça me dérange aucunement. Mais ce que ça me démontre, par exemple, avec toutes les menaces que je reçois, les messages vocaux, les commentaires, et ça vient tout de gamers. C'est des gamers, là, ils me le disent. C'est inadmissible.
Alors voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter.
C'est pas quoi dire.
Juste une précision que je veux faire parce que Mme Tétrault l'a bien mentionné. Elle a été mal citée par la journaliste de Radio-Canada qui a fait vraisemblablement un travail brouillon, là, parce qu'elle n'a jamais dit dans sa lettre qu'elle voulait faire interdire le jeu. Ça, c'est faux. Elle n'a jamais dit ça. Elle a juste demandé qu'il y ait des balises. Puis ça, c'est correct. Alors, voici ce qui arrive quand une directrice générale de CyberAid, pleine de bonnes intentions, rédige une lettre. Qu'une journaliste la cite tout croche, ben c'est ça que ça donne en entrevue. Hey,
moi, je vois une femme qui porte sa cause sur ses épaules puis qui est très, très émotive avec sa cause. Puis j'aime ça en passant. Là. Je dis la cyber-aide, la cybercriminalité, la cybersexualité, ce sont tous des thèmes qui doivent être protégés.
Essentiel.
C'est essentiel, absolument. Puis je vois une femme qui prend son travail à cœur. Alors, tant mieux. Par contre, je vois aussi une femme qui a peut-être voulu... en fait, qui n'a pas été bien informée, premièrement, là, sur le sujet en tant que tel. Et qui est peut-être sortie aux barricades en pensant qu'il y avait réellement un danger
jugé par rapport à ce jeu-là, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça rend sa démarche plus futile? Ben non, parce que la démarche en tant que telle, s'il y avait vraiment un jeu qui sortait gentiment avec des agressions sexuelles puis des suicides collectifs puis qu'on encourageait à ça, ça serait un scandale.
L'an dernier, ils l'ont pas sorti, le jeu, ça. Finalement, où il pouvait y avoir des agressions sexuelles.
Puis on serait les premiers, en fait, à dire que ça n'a pas de bon sens. Là, je comprends que, moi, je connais pas ce jeu-là, là, comme tu dis, c'est comme si tu parlais de cosmétiques en ce moment. Moi, je connais rien là-dedans. Mais je comprends de par tes propos que c'est faux. Ce qui, en fait, la prémisse de base du message de Mme Tétrault, elle est fausse.
Voilà.
Alors, c'est ce qui est dommage. C'est un faux débat. C'est dommage, par exemple, parce que ça a donné lieu peut-être à une inquiétude chez certains parents. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont lu cet article-là de Radio-Canada puis qui se sont dit, mon Dieu, je veux pas que mon enfant tombe là-dessus. Ça a-tu pas de bon sens qu'on expose des jeunes à des messages comme ça? Mais dans les faits, c'est pas tout à fait de la réalité. Là.
Sais-tu quel est l'âge moyen du gamer au Canada? Guess un chiffre.
Moi, je pense que c'est plus vieux que ce qu'on pense. D'après moi, ça doit être genre dans la vingtaine. Quelque part dans la vingtaine. Non, même pas. Peut-être début. 32.
39.
Pour vrai? Ah, je sais pas si
oui. 39. Fait que c'est un jeune.
Oui, c'est ça. Parce que plus je vieillis, plus je rencontre du monde qui gagne.
Je te jure que Cyberpunk, qui sont des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, qui ont des conversations, ce que la journaliste de Radio-Canada décrit de façon absolument maladroite comme étant, il s'agit d'un jeu de rôle dans lequel un tireur se promène pour poursuivre une quête. Ça, c'est une totale incompréhension du jeu. Tu sais, juste un message, puis je m'adresse pas à Radio-Canada en particulier, je m'adresse à tout le monde, là, pour vrai, là. Quand vous faites un article sur un jeu vidéo, je pense qu'à Radio-Canada, il y a sûrement quelqu'un qui doit gamer un petit peu. Puis qui serait plus capable d'écrire l'article que la personne qui l'a écrit. Tout comme, il y a sans doute des gens qui se connaissent plus en cosmétique que moi pour faire des chroniques. On peut-tu, genre, juste avoir un minimum de démarche journalistique, là? Ça, c'est pourri. C'est vraiment des fake news, là. Elle a mal cité Mme Tétrault. Elle a créé une tempête dans un verre d'eau. Mme Tétrault a eu l'air folle parce qu'après ça, elle a été confrontée par quelqu'un, ça a l'air, qui suit ça depuis 3 ans. Tout ça part d'une madame qui connaissait pas le sujet, qui écrit une lettre pour dénoncer une affaire qui n'existe pas, rapportée par un média qui le cite tout croche. C'est épouvantable!
Je suis bien d'accord
que le public ait confiance dans les médias.
Non, c'est sûr. Écoute, faut parler de sujets qu'on connaît, Jean-Simon. C'est pas compliqué. Alors, merci beaucoup, Jean-Simon. Au retour de la pause, restez avec nous. Jean-Simon nous parle de cosmétiques.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Ils font toujours les choses en grand chez Solaris.
Ils veulent vous aider. Ils ont donc décidé de prolonger l'Expo Solaris. Attention, il ne reste qu'une semaine pour en profiter.
Avec tout achat de 2 500 $ avec installation, c'est Solaris qui paye l'équivalent des deux taxes.
Soyez les premiers à avoir vos nouvelles portes et fenêtres installées ce printemps.
Et Solaris respecte toutes les normes de sécurité.
Perdez pas de temps. L'Expo Solaris se termine ce samedi 30 mai.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
RPM est l'unique distributeur KTM sur la Rive-Sud. KTM, c'est repousser vos propres limites là où la performance est maître. Avec notre inventaire incomparable, découvrez l'expérience des motos KTM. RPM Rive-Sud à Lévis.
Les orthésistes du pied de Québec, en tant que service de première ligne, sont ouverts, bien sûr, avec des restrictions. Comme ils ont un département d'infirmières, leurs consignes sont strictes et à la fine pointe. En tant que famille d'orthésistes, il est important pour eux de travailler afin de soutenir la communauté. Vous avez des maux de pied, de genoux ou de hanches, ils ont du temps et ils peuvent vous aider. Une bonne marche, ça fait du bien. Prenez rendez-vous, les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande, piedquebec.com.
Il y a moyen, vous savez, de payer votre épicerie 30 % moins cher. Comment on fait ça, vous allez me demander? Ben, suffit d'aller chez Grossiste Le Frigo. On a des viandes, du poisson, des fruits de mer, du fromage, des fruits et légumes, des produits de qualité. Puis en plus, on encourage les producteurs du Québec. Vous allez trouver de tout pour vos repas barbecue de la fin de semaine, en fait, et vos soupers aux morts aussi. Maintenant qu'on a le droit de recevoir des gens à l'extérieur pour des barbecues, ben, en fin de semaine, passez donc Grossiste Le Frigo pour acheter votre nourriture. On a des homards vivant de 1,5 livre jusqu'à 6 livres. C'est à 9,99 $ la livre. Commandez en ligne, sinon les fameux kits d'épicerie du frigo. On a différentes formules pour 4 à prix exceptionnel. Et profitez aussi du service à l'auto sans contact. Il n'y a pas d'inquiétude pour votre santé et votre sécurité. On a pris tout ça en main. Les détails sont sur la page Facebook du Grossiste Le Frigo. On est derrière le centre Vidéotron. Grossiste Le Frigo et on est ouvert le dimanche.
Voici un message de Réal Thériault, président de Matelas Dauphin.
C'est ici à Charny que j'ai démarré en 1970, Matelas Dauphin. 50 ans plus tard, Matelas Dauphin fabrique toujours des milliers de matelas chaque année. Grâce à vous, on a passé au travers ces moments difficiles. Voilà pourquoi, pour une certaine période, je vous offre tous les matelas fabriqués par Dauphin à moitié prix dans tous nos magasins. Chez Matelas Dauphin, vous achetez un produit québécois. À mon nom et au nom de toute la famille Dauphin, merci.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer de l'Ophélia à la maison. Le chef vous a concocté un incroyable menu à la carte pour emporter du jeudi au samedi. Vous choisissez parmi une variété d'entrées, de plats principaux, de desserts et même des pièces de viande à faire cuire sur le barbecue. Tous les plats sont conçus par le chef réputé de l'Ophélia, Hugues Réaume, et sont super faciles à préparer. Pour la livraison, il dépose votre commande dans le coffre de votre auto. Aucun contact. Pour commander, appelez à l'Ophélia ou visitez restaurantophelia.com.
Ah, le printemps, les petits oiseaux chantent.
Non, c'est mes breaks qui crient.
Cours chez Nordique. Les frères Hébestos vont régler tous vos problèmes. Nordique, deux adresses. Première avenue et 91-11 Henri Bourassa, Charlebourg. Nordique avec ES.com.
Bonjour, je m'appelle Renald Carbonneau, représentant des ventes chez Idéal Revêtement pour Québec et la région. J'ai un message important pour vous. C'est certain que la COVID-19 a plus que fait embarder nos vies dernièrement. Pour vous aider et relancer l'économie, profitez du prix employé sur nos toitures d'acier résidentiel. Oui, vous pouvez maintenant économiser 10% sur le prix du manufacturier. Pour plus de détails, voyez notre site web.
Idéal Revêtement. Avec l'acier, vous n'aurez plus jamais à refaire le toit. idéalrevêtement.ca.
Vous cherchez des gens qualifiés pour l'entretien de vos arbres? Retenez ceci. Arbo Deux Rives, élagage, abattage, essouchage, plantation d'arbres. Ils offrent un service ultra professionnel. Rive-Nord, Rive-Sud. Soumission gratuite, visitez arbodeuxrives.com.
Ici Martin Lefossé, coach en immobilier chez Duproprio. Mathieu de Québec me demande des conseils pour vendre de façon sécuritaire. Mathieu, misez sur un service qui minimise les contacts physiques. Chez Duproprio, évaluateur, conseiller, coach et notaire vous guide par téléphone. Vous aurez donc accès à notre expertise à distance. Et servez-vous la technologie. Duproprio propose un outil incontournable dans le contexte actuel, la visite virtuelle 3D. Les visiteurs pourront faire le tour de votre propriété sur le web sans se déplacer. Vous avez des questions? Appelez-nous ou visitez duproprio.com.
HelioVR.com, votre fabricant québécois de roulottes ultra-légères et durables. Voyagez léger et en tout confort sans avoir à changer votre véhicule. HELIOVR.com pour les passionnés de camping et de plein air d'ici.
Le Québec se remet graduellement au travail et les points de contrôle en région sont levés progressivement. Pour la sécurité de tous, il est important de respecter les mesures en place. Si vous utilisez les transports collectifs, il est fortement recommandé de porter un couvre-visage. Aussi, respectez les consignes d'hygiène habituelles. Gardez vos distances, lavez vos mains avant et après votre trajet et toussez dans votre coude. Et si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, restez à la maison. En déplacement, ne laissons pas circuler le virus. Un message du gouvernement du Québec.
Problème de fourmis charpentières? Consultez les experts. Extermination Plus, recommandé CAA, estimation gratuite, résultat garanti.
Extermination Plus, 666-7788, on s'occupe de vos bébites.
Numéris.
206 294 auditeurs.
Nous ont dit que tous les jours,
le FM 93 leur parle.
Dès 6 heures, du bon matin au FM 93.
Duhem, le midi,
avec Éric Duhem.
Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard.
La grand-messe du rock avec Yvon Delisle.
Le FM 93 tient à remercier tous ses auditeurs et aussi tous nos commanditaires.
FM 93.